Bonjour à tous, donc merci d'être venus. Tout d'abord, je remercie Mme Korczynski pour l'organisation et la fluidité pour ces conférences Thèse en poche. Donc on arrive à la dernière conférence qui porte donc ma thèse portée sur l'éducation thérapeutique du patient et les troubles cognitifs et comportementaux en post-AVC, apport pour les patients, les aidants et les professionnels en service de rééducation. Alors, le plan de mon intervention, tout d'abord mon parcours professionnel. Pourquoi j'ai choisi cette spécialité? Comment j'ai choisi mon sujet de thèse? Un bref mot sur la recherche documentaire et puis on va venir une grosse partie de mon intervention sur ma soutenance. Donc mon parcours professionnel, moi j'ai commencé en tant qu'infirmière à l'IFSI de la Pitié-Salpêtrière. Et à la fin de mon diplôme, en fait, je souhaitais reprendre des études. Et donc, je me suis orientée vers les études de médecine. Et j'ai attendu 3 ans parce que, pour information, en fait, vous pouvez, au bout de 2 ans d'années d'études en tant que paramédical, reprendre des études de médecine. Il y a des numéros clausus à part pour les paramédicaux dans certaines facs de France. Et j'ai attendu une année supplémentaire pour bénéficier d'un congé de financement par le biais de l'ANFH. Donc, à l'époque, ça s'appelait PCEM et DCEM. Donc, j'ai fait ma faculté à Paris 6, l'université Pierre et Marie Curie, donc de 2005 à 2011. J'incite un peu les étudiants, quand je les croise, à faire un master 1 durant leur cursus de médecine, parce que ça vous demande peu d'efforts, entre guillemets, pendant le cursus de médecine. Si vous avez à le faire après, pendant l'internat, c'est plus difficile. Donc, j'incite un peu les étudiants à en faire un. J'ai passé donc l'examen national classant le concours d'internat en 2011. Et j'ai choisi donc cette belle spécialité avec la médecine physique et de réadaptation. J'ai choisi également la ville de Caen pour finir mes études en tant qu'interne, de 2011 à 2016. Donc pendant mon internat, j'ai fait un DIU d'analyse de la marche et du mouvement dans le cadre de mon mémoire que vous avez à faire. Bonjour. Dans le cadre du diplôme de mon DES de médecine physique et de réadaptation, qui portait sur l'analyse de la marche, donc j'ai voulu approfondir et faire un DU à ce propos. En 2015, j'ai fait une formation sur l'éducation thérapeutique du patient à l'espace régional d'éducation thérapeutique de Basse-Normandie qui se situe à Hérouville, donc dans le cadre de ma thèse de médecine que j'ai passée en 2016. Donc actuellement, je suis chef de clinique en médecine physique et de réadaptation. Pour information, en fait, il y avait 17 lits au CHU de rééducation qui ne sont plus là, qui ont été transférés à Aunay-sur-Odon. Donc je travaille actuellement à Aunay-sur-Odon depuis novembre. Mon activité se décline en un travail en hospitalisation de jour pour des patients cérébro-lésés. Je travaille avec le docteur Jokic. Je suis le médecin de ce qu'on appelle le SAMSA, c'est un service, c'est une filière médico-sociale, c'est un service d'accompagnement médico-social pour les adultes handicapés dans le secteur de la Manche. Je travaille également au SSR neurolocomoteur à Aunay-sur-Odon avec les docteurs Ruet et docteur Desverger. Une activité de consultation au CHU, des vacations tout venant, neuro-orthopédie. En tant que chef de clinique, vous avez aussi vous avez de l'enseignement à faire et vous avez en théorie une activité de recherche si vous pouvez vous permettre avec toutes vos activités. Pour l'instant, je n'ai pas d'activité de recherche. Pourquoi la médecine physique et de réadaptation? Pour ma part, je trouve que c'est un travail vraiment en équipe. La richesse du travail en équipe, pour moi, c'est important. Vous travaillez avec des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, assistantes sociales. Il y a toute une multitude de professionnels, animateurs, moniteurs d'APA. Et tout ça, c'est riche au niveau des échanges. Cette spécialité, elle permet plein de ramifications. Vous pouvez vous orienter en neurologie, en orthopédie, en pédiatrie, en cardiologie, en pneumologie. En sachant qu'en la cardiologie, c'est pas mal, c'est plutôt les cardiologues qui prennent le SSR cardiologique. Les objectifs sont la limitation des handicaps, hein, qu'ils soient physiques, cognitifs, comportementaux. La réinsertion sociale, familiale, la réinsertion professionnelle, on vise à l'autonomie au maximum du patient, Alors, bon, anecdotique, mais quand même, c'est vrai que c'est une spécialité qui n'a pas de garde, et c'est vrai que ça peut être aussi facilitant pour la vie de famille. Il faut se projeter aussi. Pourquoi ce. Et donc, plein d'autres, hein, pour plein d'autres raisons, mais voilà les principales. Pourquoi ce sujet de thèse? Ben, moi, ça part d'une rencontre avec le docteur Jokic. Je travaillais, donc, j'ai fait un stage d'interne à Aulnay-sur-Odon, et elle m'a transmis un peu son savoir-faire, son savoir-être, et j'ai vraiment beaucoup apprécié de travailler avec elle. Donc, je lui ai demandé en fait un sujet de thèse, et il faut savoir que c'est vrai que le sujet de thèse, des fois, peut déboucher sur des propositions de poste. Et bah, pendant que vous travaillez, bah, vous allez acquérir des connaissances, vous allez lire des articles, et à la fin, vous allez vous former sur le sujet. Bah, après, vous avez une valeur ajoutée dans le domaine, et donc ça, pour ma part, débouché sur un poste. La recherche documentaire, donc on m'avait demandé donc un mot. En fait, il faut savoir qu'il y a des sessions ici à la BU. J'avais assisté au service d'aide à la recherche documentaire. J'ai bien sûr fait donc mes recherches par PubMed. Il faut savoir que la formation Zotero, c'est aussi intéressante lorsqu'après vous rédigez votre thèse. Les articles, bah, je les ai sélectionnés via l'interface par la BU Santé. Il faut savoir aussi que si vous êtes au syndicat des internes, il y a quelqu'un qui peut vous sortir aussi des articles et vous les transformer en PDF et vous les adresser par mail. Alors, on en vient donc maintenant à ma thèse. Je vous redonne le titre. Donc, c'est l'éducation thérapeutique du patient et les troubles cognitifs et comportementaux en post-AVC, avec cette triple problématique pour les patients, les aidants et les professionnels en service de rééducation. Alors, en Europe, les AVC représentent la première cause de handicap acquis de l'adulte et la deuxième cause d'invalidité d'origine neurologique. Ils représentent un défi pour les professionnels de rééducation. D'après White et collaborateurs, 32 à 56% des patients présentent des troubles cognitifs et comportementaux à 3 mois après un AVC. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme troubles cognitifs? Les syndromes dys exécutifs, à 39,8% jusqu'à 44%. De manière, pour faire simple, les fonctions exécutives, ça vous permet de vous adapter aux nouvelles situations, aux situations qui ne sont pas routinières. La négligence spatiale unilatérale, à plus de 85% en phase aiguë. Ça, ce sont les syndromes où les patients vont négliger, souvent c'est le côté gauche, et donc c'est des patients qui ne vont pas manger, par exemple, toute la partie gauche de l'assiette, qui vont se cogner plutôt à gauche. Les troubles amnésiques, globalement de fréquence 33%. Alors, les troubles cognitifs, ils ont une incidence sur la prise en charge des patients. Les patients nécessitent une plus longue prise en charge rééducative. L'utilisation des aides externes qu'on va mettre en place quand les patients ont des problèmes amnésiques peuvent poser des difficultés pour ces patients qui ont des troubles cognitifs. Parmi les troubles comportementaux, les déficits d'initiation et d'inhibition de l'action ont un fort retentissement sur l'autonomie des patients et vont augmenter le risque d'institutionnalisation s'ils sont présents chez nos patients. Le diagnostic de dépression, il est significativement et indépendamment associé à la présence de troubles cognitifs à 1 an après un AVC. Cependant, ces troubles, ils ont aussi des répercussions sur les aidants. Il faut savoir que 46% des aidants de patients atteints de maladies chroniques déclarent une charge qualifiée d'importante. Alors, le terme de fardeau, il est utilisé pour qualifier cette charge ressentie par les aidants. Les troubles de l'humeur, la tristesse et l'anxiété des patients sont parmi les problèmes les plus stressants auxquels sont confrontés les aidants. La fréquence de la dépression est plus élevée chez les aidants que chez les patients, surtout lorsqu'ils vivent avec les patients, lorsqu'ils vivent en couple. Lorsqu'elles travaillent, les femmes, elles ont plus de difficultés à concilier leur rôle d'aidante et leur vie professionnelle. Les aidants masculins, pour eux, déclarent ressentir un sentiment d'injustice sociale, mais ils reconnaissent que cet événement a renforcé les liens familiaux. Les répercussions financières sont, elles aussi, significative. De plus, les troubles cognitifs posent de réelles problématiques donc aux professionnels de services de rééducation, ainsi confrontés à l'anosognosie, La nosognosie, c'est la non-conscience des troubles. Les patients, ils n'ont pas conscience qu'ils ont des difficultés. Au manque de motivation du patient, aux troubles récurrents des conduites sociales, les professionnels ont donc développé des prises en charge qu'on appelle holistiques, des prises en charge globales. Le concept d'approche globale, centrée sur la personne, implique d'attribuer une importance égale aux aspects techniques, mais aux aspects également relationnels, afin de mettre en place un plan d'intervention multidisciplinaire. Ces programmes holistiques qui ont été développés par Ben Nichet ont été utilisés pour la mise en place de la structure d'hôpital de jour qui existe actuellement au Nez-sur-Odon. Ils permettent d'induire un sentiment de sécurité, d'éviter la précipitation, l'anxiété, et faciliter la reconstruction d'une identité, le retour à l'emploi. Donc face à cette problématique, à ces problématiques, les professionnels des services de soins de suite et de réadaptation, dit les SSR, ont vu apparaître dans leur champ l'éducation thérapeutique. Alors, la définition qu'on a retenue, c'est celle de la HAS. Les points clés de cette définition, c'est l'acquisition ou le maintien de deux types de compétences, des compétences d'auto-soin et des compétences d'adaptation. Les compétences d'auto-soin, par exemple, c'est soulager des symptômes, réaliser, essayer que le patient réalise des autosondages, par exemple, des soins, des gestes techniques. Les compétences d'adaptation, elles sont plus difficiles, des compétences qu'on dit psychosociales. C'est des compétences, par exemple, se connaître soi-même, maîtriser ses émotions, maîtriser son stress. Donc l'ETP, l'éducation thérapeutique, comprend des activités organisées, centrées sur le patient et sa famille. Et également un soutien psychosocial. L'éducation thérapeutique, elle a pu se développer grâce à un cadre législatif favorable. Depuis le décret d'avril 2008, l'autorisation d'exercer une activité de soins de suite et de réadaptation, elle ne peut être accordée ou renouvelée que si vous mettez en place des activités d'éducation thérapeutique. La loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire de 2009 a introduit l'éducation thérapeutique dans le droit français. Cette loi a inscrit que l'éducation thérapeutique fait part du parcours de soins du patient. Le plan national AVC 2010-2014 avait deux cibles spécifiques, le développement de programmes et la formation des professionnels. D'où l'objectif de mon travail, l'éducation thérapeutique comme offre complémentaire de soins dans le parcours rééducatif, est-elle une réponse aux besoins des aidants, aux problématiques des patients et aux attentes des professionnels? Alors, l'articulation des parcours de soins du patient en rééducation et en éducation thérapeutique a été formalisée. Dans un premier temps, le patient suit un parcours rééducatif. En hospitalisation à temps complet ou à temps partiel, il y a des réunions qu'on appelle des réunions de synthèse auxquelles donc tous les professionnels qui gravitent autour du patient participent, des réunions multidisciplinaires, et où peuvent émerger l'idée de participer pour le patient à un programme d'éducation thérapeutique. Le patient il peut également être vu en consultation externe et tout ça va émerger également une envie de participer à un programme, va déboucher sur un diagnostic éducatif. Diagnostic éducatif, c'est la première phase dans l'éducation thérapeutique, c'est un entretien qui permet au patient et à l'aidant de s'exprimer sur sa représentation de l'accident vasculaire cérébral, sur ses connaissances, ses difficultés au quotidien, les facteurs facilitants, les freins qui vont apparaître pour l'apprentissage, les projets et ses motivations. Puis vont suivre les différents ateliers, on y inclut les patients et bien sûr les aidants. L'évaluation aura lieu à 3 mois. Alors, le programme d'éducation thérapeutique en post-AVC, utilisé dans cette étude, a été autorisé par l'Agence régionale de santé en mai 2015. Il a été réalisé par les professionnels de santé issus de 3 structures de soins de suite et de réadaptation, le CH d'Aunay-sur-Odon, le CHU de Caen et l'IMPR, l'Institut de médecine physique et de réadaptation, d'Hérouville-Saint-Clair. Ainsi que avec des membres du réseau de santé du Bessin. Tout cela donc a été coordonné par un comité de pilotage. Donc, ce programme a été assez inspiré des guides de la SOFMER, des sociétés savantes de neurologie également, de la SFNV, Société française de neurovasculaire. Et ce programme a été développé sur 7 conséquences physiques et cognitives fréquentes après un AVC. Mon sujet de thèse donc, porte sur la thématique des troubles cognitifs et comportementaux. Donc, c'était une des conséquences cognitives fréquentes après un AVC. Cette thématique a été divisée en 4 sous-thèmes. La mémoire de travail, donc c'est la mémoire qui vous sert, c'est la mémoire à court terme en fait, c'est la mémoire qui vous sert à retenir par exemple un numéro de téléphone ou retenir des informations sur une courte période. Donc les fonctions exécutives, la mémoire épisodique, la mémoire des événements autobiographiques, la négligence spatiale unilatérale. Donc il y avait 4 sous-thèmes. Chaque sous-thème était décliné en 4 ateliers et le dernier était un atelier commun à chaque. C'est le même atelier pour chacune des thématiques. Il a été décidé qu'un atelier était nécessaire en préambule à tous ces ateliers, ce qui est un peu en grisé. L'atelier Qu'est-ce qu'un AVC ? Sur les facteurs de risque cardiovasculaire, il paraissait important au comité de pilotage que tous les patients aient des notions sur les facteurs de risque cardiovasculaire et sur les différents types d'AVC. Notre population, elle comportait donc les patients, les aidants et les professionnels de rééducation. Donc les patients, c'était des patients majeurs, après un AVC, dont le trouble cognitif avait bien sûr été objectivé après un bilan neuropsychologique. Ils ont eu le diagnostic éducatif. Les aidants, ce sont des aidants familiaux, professionnels. Ils pouvaient venir seuls ou en binôme avec le patient et bénéficier également du diagnostic éducatif. Les professionnels, alors des questionnaires ont été rédigés et rédigés donc par le comité de pilotage et distribués en 2012 et en 2015, donc dans les 3 structures, à Aunay-sur-Odon, au CHU de Caen et à l'IMPR d'Hérouville. Dans ma thèse, j'ai ciblé le secteur d'Aunay-sur-Odon. L'analyse des questionnaires des professionnels donnés sur Odon. Alors, les ateliers. Donc, l'atelier Qu'est-ce qu'un AVC ? Comme je vous avais dit, était considéré comme un préambule. Donc, tous les patients et les aidants ont eu cet atelier. Cet atelier s'est déroulé toutes les 2 semaines, durée 1h30, et il a été fixé un nombre de 6 participants maximum pour que l'échange puisse avoir lieu, trop de participants faisait enfin dire que c'était un peu difficile pour maintenir un échange, que tout le monde puisse prendre la parole. Les évaluations pré- et post-TP ont été faites donc avec des échelles de qualité de vie, l'échelle Eurocol, qui est recommandée pour l'évaluation de l'éducation thérapeutique. L'échelle de Zarit pour évaluer le fardeau de l'aidant. Et des questionnaires que nous avons réalisés, des questionnaires qu'on appelle sémantiques, sont des questionnaires de connaissances, c'était des QCM, sur les différentes thématiques. Donc les patients avaient ces questionnaires à remplir avant et après l'éducation thérapeutique, des questionnaires de connaissances sur les thématiques, donc sur les fonctions exécutives ou la mémoire ou la négligence. Par exemple, en fait, c'était pour montrer que tous les ateliers ont la même trame. Le premier atelier, donc c'est la découverte, donc là j'ai pris l'exemple de la négligence spatiale unilatérale, donc à la découverte de ce trouble cognitif, et chaque atelier était décliné, il y avait une rédaction d'objectifs spécifiques à acquérir. Le premier atelier, c'est de développer une meilleure connaissance de la négligence. Le deuxième atelier, intitulé la NSU au quotidien, décliné en 2 objectifs spécifiques, développer une meilleure compréhension des répercussions de ce trouble dans la vie quotidienne et partager des expériences de vie en lien avec cette difficulté. Troisième atelier, s'adapter, Donc, améliorer la vie quotidienne en limitant, comment limiter les répercussions de ce trouble cognitif. Et le dernier atelier, l'atelier commun, c'est un atelier intitulé « Et maintenant, que vais-je faire ?» C'est une ouverture, développer le projet de vie, réinvestir et développer son projet de vie. Notre population, donc 19 patients, 10 hommes et 9 femmes, avec un âge moyen de 56 ans. 9 AVC ischémiques, 10 AVC hémorragiques. Pour information, il y a beaucoup plus d'AVC ischémiques que d'AVC hémorragiques. Sauf que nous avons un biais de recrutement, puisque les personnes qui ont un AVC hémorragique ont plus de troubles cognitifs. Donc c'est pour ça que dans ma population, il y a beaucoup d'AVC hémorragiques. Le délai moyen entre l'accident vasculaire cérébral et la première séance d'éducation thérapeutique est de 20 mois. 10 aidants, 2 hommes et une majorité de femmes, 8 femmes, un âge moyen de 53 ans, il s'agissait de conjoints, conjointes, filles, familles d'accueil. Concernant les professionnels, donc 30 questionnaires ont été récupérés en 2012, 34 en 2015 et distribués à tous les professionnels de rééducation, du service de rééducation. Alors, les résultats. Nous retrouvons une amélioration significative des connaissances des patients pour deux groupes, les groupes mémoire épisodique et mémoire de travail. Et une amélioration des connaissances, donc ça, c'est suite aux questionnaires qui ont été distribués avant et après, des aidants du groupe fonction exécutive. Pour la qualité de vie, on a retrouvé une amélioration des patients d'un groupe sur la négligence. Je ne vais pas vous commenter les schémas, c'est les schémas ma soutenance, juste pour vous montrer que l'Eurocol, l'échelle de qualité de vie, elle se symbolise par deux parties. Première partie, vous avez différentes thématiques, vous voyez en bas, la mobilité, l'autonomie, les activités courantes, la douleur, la gêne et l'anxiété, la dépression. Et les patients devaient cocher « est-ce que j'ai aucun problème de mobilité, des problèmes modérés de mobilité, des problèmes sévères ?» Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est une échelle entre 0 et 10 et le patient doit mettre une croix sur comment il estime son état, 10, son meilleur état de santé imaginable, les 0, il ne se sent vraiment pas bien. Donc, il nous coche et ça nous fait une... L'échelle de Zarit, pour évaluer le fardeau de l'aidant, nous avons retrouvé qu'il n'y avait pas d'impact significatif sur le fardeau. L'éducation thérapeutique n'a pas montré d'impact avec cette échelle. La moyenne de notre fardeau étant très faible, en pré- et en post-ETP. Le comité de pilotage a mis en place une cible, donc qui était donnée au dernier atelier, pour la satisfaction des aidants et des patients. Et on a retrouvé que 91,5% des participants étaient satisfaits globalement de ces ateliers. Concernant les professionnels, on retrouve que le nombre de professionnels formés, ce qui était un objectif, a fortement augmenté, ainsi que leur connaissance sur le contenu du programme. Dans les questionnaires, il y avait des questions sur le contenu du programme et c'est vrai qu'on a vu une amélioration. Les personnels de rééducation sont investis, sont appropriés le programme. En 2015, les professionnels ciblaient davantage de compétences d'adaptation. Donc les compétences d'adaptation, c'est se connaître soi-même, l'estime de soi, maîtriser son stress. Comme compétences indispensables à acquérir, pour être au domicile en toute sécurité. Alors qu'en 2012, c'était davantage des compétences d'auto-soin, c'était les compétences d'auto-soin, donc savoir mesurer sa tension artérielle, savoir préparer ses médicaments. 64% des professionnels ont déclaré que l'éducation thérapeutique avait modifié de manière positive leur pratique. Alors, en discussion. Plusieurs études retrouvent une amélioration significative des connaissances des patients et des aidants, comme dans notre programme. Koenig et collaborateurs ont d'ailleurs constaté que les patients et leurs aidants avaient peu de connaissances sur l'accident vasculaire cérébral. 52% ne connaissait aucun facteur de risque cardiovasculaire. Les troubles cognitifs et comportementaux, assez méconnus, sont un des domaines dans lesquels les patients et les aidants ont besoin d'approfondir leurs connaissances. La revue Cochrane de 2009 relève que l'absence de questionnaire spécifique sur l'AVC est une difficulté de méthode pour l'évaluation de des connaissances. En effet, en fait, nous avons utilisé un questionnaire maison. Il n'y a pas de questionnaire standardisé. Notre étude n'a pas montré d'amélioration significative de la qualité de vie, comme dans de nombreuses études. La prise de conscience des troubles cognitifs et la levée de ce qu'on appelle la nosognosie, c'est-à-dire la non-conscience des troubles, pourrait être une explication à la dégradation des performances qu'on va observer, ou la non-amélioration. Nous avons utilisé l'Eurocol, c'est une échelle qui est recommandée en post-AVC, mais il s'agit d'une échelle générique. Et ces échelles génériques, elles sont moins pertinentes que les échelles spécifiques. Spécifique, c'est une échelle générique pour toutes les pathologies. Or, il n'y a pas d'échelle spécifique de qualité de vie pour l'AVC. Le TP n'a pas eu d'impact sur le fardeau des aidants, comme retrouvé également dans de nombreuses études. Le fardeau dans notre population était faible en pré- et en post-éducation thérapeutique. L'échelle de Zarit, admise pour appréhender ce concept de fardeau, comporte plusieurs limites. Cet auto-questionnaire peut minorer l'estimation du fardeau, notamment sa composante objective. Elle saisit uniquement les besoins que les aidants considèrent exprimables. Il peut occulter certains enjeux inconscients comme le sentiment de culpabilité. Given et collaborateurs ont proposé une autre échelle, la Caregiven Reaction Assessment, qui est originale par trois dimensions qui ne sont pas présentes dans l'échelle de Zarit. Les trois dimensions sont l'absence de support familial, l'impact sur les finances et l'estime de soi. La démarche d'éducation thérapeutique a permis une modification dans les pratiques des professionnels, sur leur positionnement dans la relation patient-soignant et aidant-soignant, et également sur la collaboration entre les professionnels. À travers cette étude, nous avons voulu mettre en avant la complémentarité des postures rééducatives et éducatives. Concernant le processus d'éducation thérapeutique, il débute par un entretien, ce qu'on appelle le diagnostic éducatif. Alors, Berton et collaborateurs préconisent le terme de bilan éducatif partagé. Utiliser le terme de diagnostic dans le champ de l'éducation incite les soignants à maintenir une attitude d'expertise. Pour information, on avait élaboré une trame à suivre pour le diagnostic éducatif. Elle était exhaustive et on a eu l'idée de la synthétiser, l'alléger, notamment pour mettre davantage en avant les dimensions psycho-affectives et motivationnelles. À ce jour, j'avais évoqué que c'était exclusivement les médecins qui réalisaient les diagnostics éducatifs et j'évoquais que ce rôle pouvait être délégué à une infirmière. Ça permettrait d'élargir leur champ de compétences et de les inclure davantage dans le programme d'éducation thérapeutique. Concernant les ateliers, le binôme qui animait les ateliers était le même tout au long des ateliers. Je trouvais ça intéressant puisque les patients ont besoin de repères et de stabilité, ce qui a d'ailleurs convenu aux patients et aux aidants. Et le risque des interventions ponctuelles serait peut-être de maintenir un rôle d'expert. La mise en place de séances individuelles ou collectives spécifiquement dédiées aux aidants, ce qui se fait à Charlefoix, par exemple, pourrait être envisagée, c'était une ouverture à l'avenir à Aulnay-sur-Odon. L'étape d'évaluation était chronophage. À ce jour, il n'y a pas de critères établis pour mesurer la qualité de l'éducation thérapeutique. La difficulté de garantir une évaluation valide peut être liée au manque de personnel enseignant compétent en évaluation pédagogique et sanitaire. Il n'y a pas non plus de recommandations sur le moment le plus approprié pour mettre en place ces ateliers. Le plus souvent, ils débutent avant la sortie d'hospitalisation ou un mois après. Cependant, des programmes plus tardifs ont aussi un intérêt pour des patients qui présentent des séquelles évolutives. Alors, notre étude comporte plusieurs limites. Bon, petite taille de notre échantillon. Nous n'avions pas de groupe contrôle, qui n'ont pas eu d'éducation thérapeutique. Biais de recrutement des patients, puisque l'idée, ça serait que le patient fasse la démarche de participer et qu'il ait lui-même l'idée de participer aux ateliers d'éducation thérapeutique. Or, les troubles cognitifs sont peut-être un frein à cette démarche. Les questionnaires proposés aux professionnels de rééducation comportaient beaucoup de questions ouvertes, ce qui entraîne des difficultés d'analyse par la suite de ces questionnaires. Les axes d'amélioration. Le développement, développer davantage des ateliers pour les compétences d'adaptation qui sont plus difficiles à acquérir pour les patients. Améliorer la traçabilité, poursuivre les formations et intégrer le médecin traitant à toute cette démarche. En conclusion, l'éducation thérapeutique apparaît comme un prolongement et une offre de soins complémentaires au programme rééducatif classiquement proposé en soins de suite et de réadaptation. La posture éducative adoptée par les professionnels de rééducation est une réelle avancée dans nos pratiques. En l'absence actuelle de financement spécifique dans nos services, il nous faudra optimiser le temps de thérapeutes qui sont investis dans ces activités et travailler sur l'organisation entre les centres afin de répondre rapidement aux besoins exprimés par les patients. Un objectif à terme serait de créer des pôles de spécialisation. C'était ce que je disais dans ma thèse et ça commence à se mettre en place. Aunay-sur-Odon commence à être sur la spécialisation des troubles cognitifs. L'IMPR d'Hérouville a développé la thématique de l'activité physique après un AVC, prévention des chutes. Je vous remercie de votre attention.